Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière et ancienne candidate à l'élection présidentielle. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, comme chaque année, Lutte ouvrière donne rendez-vous à ses sympathisants à Presles, dans le Val d'Oise. Ce sera à la fin du mois. Nous en parlerons à la fin de cette émission. Nous évoquerons aussi les luttes sociales en cours. Mais j'aimerais d'abord que vous nous fassiez un bilan de la première année de présidence d'Emmanuel Macron, qui a été élu il y a un an, le 7 mai 2017. Vous étiez opposé à lui au premier tour.
Oui, et au deuxième tour, je me suis abstenue, hein, parce que il était clair qu'il serait le candidat des plus riches. Et la première année, quand même, nous l'a démontré quasiment jour après jour. Parce qu'on a vu une succession d'attaques anti-ouvrières, on a vu qu'il déployait le tapis rouge pour les plus riches. Dernièrement, il a encore fait cadeau d'une taxe que les ultra-riches payaient. Alors, voilà, ça s'accumule.
Une taxe qui avait été imposée d'ailleurs par Nicolas Sarkozy.
Oui, qui avait été mise en place par Nicolas Sarkozy. Autant dire que ce n'était pas une taxe qui faisait vraiment mal à la bourgeoisie. Mais aujourd'hui, y compris, le gouvernement se défend en expliquant que de toute façon, elle ne rapportait pas grand-chose. 70 millions, dit-il, pas grand-chose. Sauf que quand il a fallu qu'il mette en place un plan d'urgence pour les EHPAD, il ne les a même pas trouvés, les 70 millions, puisqu'il n'a trouvé que 50 millions. Donc voilà, et c'est comme ça pour tout. Hein. Alors même que du côté de la bourgeoisie, mais il y a de l'argent qui dégouline comme jamais. Bon, les profits, ils ont battu des records, alors, c'est 93
l'argent
milliards.
L'argent dégouline, mais vous ne croyez pas à la théorie du ruissellement.
Bah, on voit bien que ce n'est pas le cas, puisque toutes les banques ont annoncé des profits, mais alors faramineux. Hein. Toutes les grandes banques. Et en même temps, elles suppriment toutes des emplois, parce qu'elles ferment des agences, parce qu'elles sont toujours et encore dans la recherche de plus de rentabilité, de compétitivité, et c'est toujours les employés, les salariés qui le payent. Parce que, vous comprenez, il y a à la fois donc des profits qui ont augmenté, plus 26% l'année dernière. Il y a des dividendes, les actionnaires sont arrosés de dividendes. Les grandes fortunes ont elles-mêmes augmenté. Bon, bah, on a le symbole de ces grandes fortunes, c'est Bernard Arnault. Sa fortune, en un an, a augmenté de 20 milliards pendant l'année 2017. Et c'est même, on voit que de l'autre côté, eh bien, les travailleurs ont toujours des conditions de travail de plus en plus dures. On voit qu'on allonge leur temps de travail, les cadences sont insoutenables, les salaires sont bloqués. Quel est le salarié qui a vu son salaire augmenter, ne serait-ce que de 2-3%?
Il n'y en a pas. Quelques augmentations avec la suppression des cotisations sociales. À partir du mois de janvier, il y a une légère augmentation pour les salariés du privé.
Oui, tellement légère qu'il faut prendre un microscope pour la voir, parce que, y compris le gouvernement, voyons bien qu'elle était toute petite, il a fait l'addition sur l'année en expliquant que les plus petits salaires, ceux qui auront la plus grande augmentation, auront jusqu'à 260 euros par an supplémentaires. Mais ce n'est pas 260 euros par an qu'il faut, en plus, c'est 260 euros tous les mois. Tous les mois. Parce que quand on est à 1100, quand on est à 1200 ou à 1300 euros, eh bien, on ne peut que galérer. Et on ne peut qu'être endetté. On ne voit pas le bout du tunnel. Donc, on travaille pour rien. Voilà, c'est ça la réalité. Et cette augmentation de salaire, c'est une fausse augmentation de salaire. D'abord, parce qu'effectivement, elle est dérisoire. Et deuxièmement, parce qu'elle n'est pas payée par le patronat. Elle est payée par les retraités, c'est-à-dire par nos parents, voire nos grands-parents. Et ça aussi, c'est scandaleux, parce que c'est les retraités qui le payent avec l'augmentation de la CSG.
Emmanuel Macron a parlé de solidarité entre les générations. Il a même dit merci aux retraités pour ce geste envers les salariés du privé.
Oui, moi j'ai trouvé que c'était d'un cynisme achevé. Voilà, parce que, les efforts, il le demande à tous. Aux retraités, aux ouvriers, aux employés, aux fonctionnaires, à tout le monde. Sauf... aucun effort de solidarité demandé aux plus riches. Ah là, non. Eux, il faut toujours et encore qu'ils aient des cadeaux. Il faut toujours et encore qu'ils amassent les milliards, qu'ils soient exonérés d'impôts, de taxes. C'est ça, sa vision du monde. En fait, voilà. Il est président des riches, mais jusqu'au bout des ongles, Macron.
Vous aviez dénoncé la politique de François Hollande. Vous dénonciez également la politique de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous avez le sentiment...
La politique de Macron. J'ai dénoncé d'abord
curseur...
Sarkozy... Hollande, Macron.
Mais je vous reçois depuis plusieurs années. Vous avez à chaque fois dénoncé les politiques de ces différents présidents. Est-ce qu'il a placé le curseur un peu plus loin que Nicolas Sarkozy et François Hollande, ou bien vous dites que c'est finalement à peu près la même chose?
Ben forcément, puisqu'il arrive après. Donc, il ne se contente pas seulement d'entériner les attaques qui ont été imposées par ses successeurs. Il les aggrave, il les continue. Hein, et c'est moi je voilà je on voit bien que quand on est travailleur, ben nos conditions de travail et de vie reculent depuis déjà des années et des années. Hein. Les conditions de travail, c'est le fait aussi que les services publics reculent. Hein. Ça, on va peut-être parler aussi de ce qui se passe à la SNCF, mais on mesure que voilà ça sera forcément pire pour nos enfants. Hein, parce que la société telle qu'il nous la présente, ça sera encore plus de précarité. Là, il nous explique, il y a une amélioration sur le marché de l'emploi. Mais qu'est-ce que c'est que ces améliorations? C'est des emplois à temps partiel, c'est des emplois mal payés, c'est de l'intérim. Voilà, c'est les emplois chez Amazon, où au bout de 5 ans, on a le dos cassé. Hein, il n'y aura pas, alors même qu'il y a, selon les dires du gouvernement, une reprise économique, qu'il y a une embellie économique, eh bien pour les travailleurs, il n'y aura pas de reprise, il n'y aura pas d'embellie, tant qu'ils ne relèveront pas la tête, qu'ils ne se battront pas, justement, pour demander leur part.
Alors, les travailleurs se battent actuellement, Nathalie Arthaud. Pendant les premiers mois de la présidence Macron, l'opposition et les syndicats avaient du mal à se faire entendre. Or, depuis quelques semaines, les luttes sociales se multiplient. On va parler dans un instant de la SNCF. Est-ce que vous avez le sentiment que ces différentes luttes peuvent aboutir à un mouvement de grève plus vaste, à l'image de ce qui s'est passé il y a 50 ans, en mai 68?
Moi, ce que je vois, c'est que les cheminots se sont effectivement engagés dans le combat avec une grève qui est massive, quoi qu'en disent les journalistes ou le gouvernement, qui est massive et qui est déterminée. Et cette grève qui donne lieu à différentes journées de manifestations, elle permet à d'autres mécontentements de s'exprimer. Et elle donne envie à d'autres travailleurs, des salariés du public, mais aussi des salariés du privé, parce qu'ils savent que si Macron, réussit encore cette attaque, eh bien, il aura les mains plus libres encore pour s'attaquer aux autres. Il n'a pas caché qu'il prévoyait une nouvelle réforme sur les retraites, qu'il envisageait de supprimer 120 000 emplois dans la fonction publique. Donc, le monde du travail est conscient d'avoir affaire, effectivement, à un ennemi et qu'il faut l'arrêter. Donc, déjà, là, les cheminots, en relevant la tête, eh bien, ils ont montré, oui, que les travailleurs pouvaient relever la tête. Donc moi, j'espère que bien sûr, d'autres vont se lancer dans le combat.
Parlons de cette grève des cheminots. Ce vendredi, on en est à 14 jours de grève à la SNCF, un mouvement que vous soutenez, vous venez de nous le confirmer. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans cette réforme de la SNCF, Nathalie Arthaud?
D'abord, c'est une attaque contre une fraction du monde du travail. Voilà. Et moi, je ne vois pas, je ne comprends pas pourquoi, dans les circonstances actuelles, alors qu'il y a de l'argent dans la société, alors que, justement, la bourgeoisie n'a jamais été aussi riche, pourquoi les travailleurs, quels qu'ils soient, soient obligés de reculer et de voir leurs conditions de travail dégradées. Là, ils se battent, effectivement, pour préserver la petite sécurité de l'emploi qu'ils avaient, pour préserver leur salaire. Alors, leur salaire est bloqué, hein. Mais bon, bah avec l'ancienneté, ça pouvait encore un peu progresser. Ils se battent pour ne pas devenir des pions dans le casino capitaliste. Eh bien, ils ont raison de se battre. Voilà, et c'est déjà, voilà, de dire les travailleurs, il n'y a pas de raison de reculer. Et puis, bien sûr, je pense que l'ensemble de la population le paiera, parce que c'est aussi un cadeau qui est fait au grand capital et qui fera forcément reculer le peu qui restait de services publics à la SNCF.
L'argument que donne le gouvernement, c'est qu'il ne touche pas au statut des cheminots actuels, mais finalement au statut des nouveaux entrants. Pour vous, ça n'est pas un argument recevable?
En fait, il ne garantit absolument pas l'avenir des cheminots qui seront sur les lignes livrées à la concurrence. En fait, ils ne savent absolument pas ce qu'ils deviendront et dans quelles conditions ils travailleront et pour qui et avec quelle convention collective, avec quel droit. La réalité, c'est qu'ils sont eux aussi attaqués et puis ils sont aussi soucieux, oui, c'est vrai. C'est aussi une lutte pour préserver les droits, mais y compris pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Parce que justement, pendant des semaines, on a montré du doigt les cheminots en les accusant d'être des égoïstes, de s'intéresser qu'à eux, d'être des privilégiés. Enfin bon, je ne sais quoi, ça c'était une campagne d'intox qui était délirante. Délirante, parce que quand on est manœuvre, guichetier, ou quand on est même roulant et qu'on vit avec des jours entiers, des week-ends entiers où on n'est pas chez soi, eh ben on est un travailleur qui ne vole pas son pain. C'est ça la réalité. Mais donc, on a voulu les faire passer pour des égoïstes qui ne pensaient qu'à eux. Eh ben, la réalité, c'est qu'ils se battent aussi pour l'avenir. Pour l'avenir de la condition ouvrière, aussi pour les jeunes qui rentrent à la SNCF, et c'est tout à leur honneur. Et vous savez, d'ailleurs, les plus grands combats de la classe ouvrière, ils ont été menés, y compris avec cette conscience-là. Et s'il n'y avait pas eu ces combats-là, le travail des enfants, parce que ce n'est pas les enfants qui sont battus, qu'on sorte du travail forcé des enfants. Ça a été effectivement d'autres travailleurs. Et c'est ça le combat aussi de la classe ouvrière.
Nathalie Arthaud, vous croyez le gouvernement quand il dit que l'ouverture à la concurrence ne va pas entraîner une privatisation de la SNCF ?
Mais il va livrer des bouts entiers de la SNCF au capital privé. Ça, c'est un fait. Des bouts entiers du chemin de fer au capital privé. Il n'y aura d'ailleurs pas la concurrence, il y aura des monopoles privés. C'est ça. Qui chercheront, à la différence de la SNCF, où on pouvait se dire à la SNCF, il y a tout. Vous savez, la SNCF, elle se conduit depuis déjà des années et des années exactement comme une entreprise privée, avec les mêmes critères de rentabilité, etc. Mais on pouvait au moins se dire que les lignes qui marchaient bien, elles pouvaient compenser les lignes qui ne marchaient moins bien et qui étaient moins rentable, voire pas rentable du tout, et que quelque part ça pouvait s'équilibrer. Ben là, c'est fini. Là, c'est fini. Ils vont chercher à faire leur argent sur les lignes effectivement les plus rentables. On leur amène tout sur un plateau. Les voies, le matériel, les cheminots formés, ils n'ont plus qu'à les exploiter. Alors ça, dans le sens le premier du terme, de l'exploitation, alors on rentre l'argent, voilà. Ils viennent toucher leur argent. Et bien ça, voilà, moi je trouve que c'est un gros cadeau qui est fait au capital et que les usagers de la SNCF, ils n'y verront aucune amélioration parce que la réalité, c'est que les prix peuvent augmenter et il n'y aura pas les investissements qui manquent cruellement pour faire rouler les trains comme il le faudrait.
Les prix peuvent augmenter, ça il faut qu'on en soit tous conscients. Vous avez l'exemple de la Grande-Bretagne.
L'exemple de la Grande-Bretagne. Et vous savez, alors ils disent oui, il y aura plus le choix. Ah mais moi je n'en doute pas. Sur certaines lignes très fréquentées, on va peut-être voir arriver des trains de luxe réservé aux gens qui ont de l'argent, avec des wagons, vous savez, dans les avions, ça existe déjà, des chambres d'hôtel, ils nous font des chambres d'hôtel dans certains avions de luxe. On peut imaginer que ça arrive, aussi, sur le chemin de fer, mais c'est ça, le progrès pour la société, moi, c'est pas comme ça que je conçois le progrès. Moi, je pense que la SNCF, ce réseau, il doit servir à tout le monde et surtout à ceux qui n'ont pas de voiture et qui sont dépendants du chemin de fer. Ils doivent être transportés dans des bonnes conditions et pas cher, le moins cher possible. Et ça, c'est sûrement pas les capitalistes privés qui vont le faire.
Nathalie Arthaud, vous avez utilisé deux expressions, deux mots importants, service public et rentabilité. Est-ce que les services publics garantissent une égalité de service à tous, alors que la privatisation, c'est forcément la rentabilité et moins de services quand un service n'est pas rentable. C'est ça l'équation.
Le problème, c'est que les services publics tels qu'ils ont été organisés par des États au service des plus riches, au service de la bourgeoisie, ils ont d'abord et avant tout été organisés pour répondre à leurs besoins. C'est ça la réalité. Et regardez ce qu'ils en font aujourd'hui des services publics. Comme ils ne donnent pas les moyens de ces services publics pour qu'ils fonctionnent, on a aussi des services publics qui sont à deux vitesses. On a aussi ça. Donc, on a y compris des endroits complets qui sont désertés par les services publics. On a des déserts en termes de services publics. Donc, vous savez, moi, je ne porte pas au nu le service public. Ce n'est pas une formule magique. Tant qu'il est organisé par des gouvernements qui sont d'abord et avant tout préoccupés par les besoins patronaux, ce n'est pas les soucis des travailleurs qui sont pris en ligne de compte. Donc voilà, pour moi, attention, ce n'est pas la recette magique. Et je pense que le problème, les véritables services publics deviendront au service de la population lorsqu'en fait, nous prendrons, nous les travailleurs, les rênes du pouvoir. C'est ça la réalité. Et lorsqu'on les organisera pour véritablement répondre aux besoins de la population, à commencer par les plus pauvres de la société. Et le problème ne s'est jamais posé comme ça. Vous savez, même les lignes de chemin de fer, ça a été fait en fonction des besoins patronaux, pour amener leurs marchandises au marché, pour joindre les grands axes, pour amener leurs travailleurs dans leurs entreprises, hein, mais pas pour répondre aux besoins des plus pauvres. Donc voilà, je ne veux pas...
Vous ne voulez pas idéaliser les services publics ?
Non, je dis, tant que justement, on n'a pas changé, hein, tant que c'est la classe capitaliste, les plus riches, qui ont le pouvoir et qui exercent ce pouvoir au travers de politiciens qui leur sont dévoués, eh bien, il n'y aura pas de véritable service public pour les travailleurs. Donc, et regardez d'ailleurs ce qu'ils en font aujourd'hui du service public. Ils le vident de sa substance. Hein, aujourd'hui, pour pouvoir se faire opérer à l'hôpital, des fois, il faut attendre combien ? 4 mois, 6 mois pour faire un scanner ? Combien il y a de gens qui se disent, moi, je ne veux pas mettre ma santé, ma vie en jeu ? Hein, je vais aller payer des dépassements d'honoraires. Combien de femmes et d'hommes sont réduits à cela aujourd'hui dans la société? Donc voilà. Alors maintenant, c'est clair, hein, le capital privé, sa rapacité, ça ne va pas améliorer les choses. Et quand le gouvernement nous explique que ça va être le renouvellement de la SNCF, ça c'est une vaste blague. Parce qu'on sait très bien que le problème des trains, les accidents, mais les ralentissements, les suppressions de trains au quotidien, ça vient d'un manque d'investissement. Ce n'est sûrement pas le capital privé qui va débloquer des dizaines de milliards pour les faire, ces investissements. Ils ne veulent que eux, c'est le jackpot, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que l'argent tombe, mais ce n'est pas eux qui vont investir ce que l'État n'a pas investi depuis des années et des années.
Vous soutenez cette grève des cheminots, alors c'est une grève perlée. Est-ce que vous pensez que la grève devrait se durcir ?
Moi, je pense que les cheminots, ils ont déjà, ils relèvent la tête et ils peuvent être fiers de ce qu'ils font. Voilà. Hein, alors, c'est un rapport de force. Bien sûr, on peut toujours dire, oh, il aurait peut-être mieux valu faire comme ci, faire comme ça. Mais c'est pas tellement le problème. Hein, le problème, c'est justement, c'est leur détermination en fait. Et là, on voit parce que cette grève, elle s'installe dans la durée. Parce que vous savez, c'est pas facile. Hein. On fait grève, on s'arrête 3 jours. Il faut se remettre en grève parce que moi j'entends ceux qui, enfin les commentateurs, pro patronal qui parlent. Je sais pas, on a entendu parler de la gréviculture.
Mais ça c'est dur. La République voilà. En Marche qui a dit ça.
Vous savez, en réalité, on est sur des rails. On est conditionné, on est habitué à baisser la tête, à aller bosser à l'heure, pas être en retard et faire et dire oui à tout ce que le patron nous demande. Vous savez, faire grève, bah oui, ça demande une sacrée volonté de se battre. Et moi je pense que ils peuvent être d'ores et déjà, ils ont déjà gagné d'ailleurs, vous savez, justement leur dignité, de relever la tête.
Déjà un mois de grève.
Mais oui, et c'est quelque chose de très important.
L'opinion publique est en train de soutenir davantage aujourd'hui cette grève qu'il y a un mois.
Moi, mon problème, c'est pas l'opinion publique, c'est l'opinion ouvrière. Voilà. Et ce que j'ai vraiment, ce que ceux qui montrent, les manifestants qui ont participé à différentes journées là, qui se sont succédées, ils montrent une chose, c'est que ils ont réalisé, ils ont pris conscience que finalement, du cheminot jusqu'au pilote d'avion, en passant par l'employé, l'aide-soignante de l'EHPAD ou de l'hôpital, nous sommes des travailleurs, nous avons les mêmes intérêts, nous faisons partie d'une même classe sociale. Et ça, finalement, c'est Macron qui leur a fait comprendre. Il leur a fait comprendre parce que quand vous l'écoutez bien, il a le même cynisme et le même mépris vis-à-vis de tous. Et pour effectivement obtenir des améliorations des conditions de travail. Mais quand j'entends, moi, les aides-soignantes, par exemple, dans les hôpitaux, c'est même pas des améliorations des conditions de travail, c'est juste pouvoir faire leur boulot correctement qu'elle voudrait. Eh bien, quand on voit comment agit Macron, eh ben, il nous apprend clairement que finalement on fait tous partie de la classe ouvrière, et que lui, il est en face. Alors moi, j'espère que cette conscience-là, elle va se développer et que ça aidera effectivement à l'extension des luttes.
Lutte ouvrière participe à la manifestation du samedi 5 mai contre Emmanuel Macron.
Non, nous ne participons pas à cette manifestation. Vous savez, il y en a des initiatives, il y en a tous les jours. Il y en a une aujourd'hui, il y en avait une donc le 1er mai, mais celle-là non, parce que en bien sûr, tout ce qui consiste à dénoncer la politique anti-ouvrière de Macron, exprimer une solidarité avec les cheminots, bien sûr que nous sommes pour. Mais là, il y a quand même une opération politique. Hein, c'est la manifestation de la France insoumise, c'est une façon d'introniser Jean-Luc Mélenchon comme le représentant naturel de la mobilisation, comme le futur leader de la gauche pour lequel il va falloir voter. Et ben moi je suis désolée, nous on marche pas là-dedans parce que l'union de la gauche, on en a soupé.
Tout de même, il y a un an, les députés de la France insoumise étaient élus à l'Assemblée nationale. Comment vous jugez leur travail ? On les a beaucoup entendus, contrairement aux autres responsables de gauche.
Non, mais vous voyez, moi là, j'ai pas mal discuté de la situation avec des collègues, et les collègues me disaient, mais les manifestations, ça mène, pour l'instant, ça marche pas, ça débouche pas, ils me disaient ça. Mais les belles interventions des députés de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale, ça débouche sur quoi ? Ça débouche sur quoi ? Ça débouche sur rien. Et moi, la différence que je fais justement entre ces interventions des politiques à l'Assemblée nationale, ce théâtre qui est l'Assemblée nationale, où chacun joue son rôle, mais où on connaît déjà à l'issue, parce que de toute façon, les députés de Macron sont prédominants, et il fait passer tout ce qu'il veut, et y compris quand il ne veut pas s'embarrasser des débats, il passe par ordonnance. Bon, ben moi, je fais une différence entre ce qui se passe à l'Assemblée nationale et ce qui se passe dans la rue. Parce que dans la rue, aujourd'hui, oui, ces manifestations, elles n'ont pas encore débouché, cette grève, elle n'a pas encore, ces grèves, elles n'ont pas encore débouché, mais elles font avancer l'état d'esprit du monde ouvrier. Et ça, c'est autrement précieux que n'importe quel discours entre quatre murs entre députés. C'est autrement précieux parce que nous sommes convaincus, nous, que s'il y a un changement de société qui surgira, eh bien, il viendra de l'action collective consciente du monde du travail, voilà, engagée dans un bras de fer, non seulement pour leurs intérêts immédiats, économiques, mais aussi, nous espérons qu'ils iront plus loin, parce que qu'ils seront plus radicaux, parce qu'en ce moment, il est très à la mode de parler de radicalité, eh bien, qu'ils iront plus loin, c'est-à-dire qu'ils iront jusqu'à contester la domination du grand capital, jusqu'à contester la propriété privée des moyens de production, qu'ils iront jusque-là. Et moi, notre conviction, c'est que c'est ça qui permettra de changer la société.
Nathalie Arthaud, qu'est-ce que vous pensez de la loi Asile et Immigration votée à l'Assemblée nationale et qui va passer devant le Sénat ?
Je pense que c'est une ignominie de plus. Voilà, je pense que, encore une fois, y compris là-dessus, Macron a quand même bien trompé son monde. Hein, et j'entends beaucoup de ceux qui ont voté Macron dire que là-dessus, ils ont été bien trompés, parce qu'effectivement, il avait fait mine, pendant sa campagne, d'être plus ouvert, de vouloir adopter une politique davantage humaine. Et puis la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les migrants, ils sont traqués. Ils sont matraqués, voilà, ils sont traités comme des pestiférés. C'est ça la réalité. C'est dur de le dire, mais c'est ça la réalité. C'est ça. Et je trouve ça absolument ignoble. Et qu'est-ce qu'on veut nous faire croire ? Qu'il y a un afflux, que ça serait insupportable, etc. Hein, mais tout ça, c'est une campagne anti-immigrée. Qui moi je dénonce, que je trouve insupportable. Et ce qui me fait chaud au cœur, c'est de voir que finalement plus ce gouvernement multiplie les déclarations contre les migrants, et puis instaure des lois dures contre les migrants, parce qu'il s'agit quand même de les mettre en centre de rétention encore plus longtemps, d'envoyer y compris des enfants en centre de rétention.
Oui, l'amendement qui devait interdire l'incarcération des enfants a été rejeté.
Voilà, donc c'est effectivement très dur. Eh bien, ce que je vois, c'est que justement ceux qui ont envie d'aider les migrants et d'être solidaires des migrants et de dire c'est insupportable, eh bien, ils sont de plus en plus nombreux. Voilà. Hein, et ce qu'ils ont voulu instaurer, ce fameux délit de solidarité, eh ben, la réalité, c'est qu'il y a une volonté de dire, mais voilà, nous sommes des frères. Voilà, nous sommes des frères. Et c'est ces femmes et ces hommes qui fuient leur pays parce qu'ils sont en guerre ou parce qu'ils fuient la misère, parce qu'ils fuient le fait qu'ils n'ont pas d'avenir et qu'ils sont acculés, effectivement, au désespoir dans leur pays, eh ben, ce sont des futurs travailleurs et ils vont être à nos côtés. Et il faut qu'effectivement, on les intègre, y compris dans nos combats, parce qu'en fait, ils sont victimes de la même chose que nous. Hein, d'une autre façon, mais ils sont victimes aussi, finalement, de la dictature du capital. Voilà, où il n'y a que le fric qui compte dans cette société. Et cet argent-là, il fait des désastres ici. Ça crée le chômage, ça crée l'exploitation. Mais ils font aussi des catastrophes dans le monde entier. Voilà, alors ce sont les guerres, mais c'est aussi le dénuement, c'est aussi le sous-développement, c'est aussi ces bandes armées là qui les décompositions des États, ces bandes armées qui massacrent les populations. Bon, c'est le résultat du système capitaliste. Donc pour nous, voilà, les migrants, il faut en faire des frères de combat. Voilà, les intégrer effectivement dans notre combat de classe.
Nathalie Arthaud, autre mouvement social en ce moment, celui des étudiants qui refusent le système Parcoursup. Je rappelle que vous êtes également enseignante. Quelles sont les conséquences de ce système Parcoursup pour les futurs bacheliers?
Ça va être effectivement une sélection, c'est-à-dire que les jeunes, et d'abord les jeunes des quartiers populaires qui auront le bac en poche, eh bien, ça ne leur servira plus à rien. Voilà, ça ne leur permettra plus d'aller faire des études supérieures.
Pourquoi les jeunes des quartiers populaires en particulier ?
Eh bien, d'abord eux, parce qu'il y aura une sélection, un classement. Donc, évidemment, le classement va classer en bas de la liste non seulement les jeunes qui viennent des quartiers les plus populaires, des villes les plus populaires, et puis les jeunes qui ont plus de difficultés que d'autres, c'est vrai. Donc, il y a un certain nombre de jeunes qui ont plus de difficultés, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne pouvaient pas faire des études supérieures. Moi, je pense que, voilà, chacun a son rythme. Hein, on nous a beaucoup menti. Il y a eu des mensonges, disons que, voilà, en première année, il y avait 70% d'échecs. Mais en fait,
c'est faux.
La réalité, c'est que les jeunes ne quittent pas la fac. Ils se réinscrivent sur d'autres cursus, sur d'autres parcours. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de savoir s'orienter. C'est ça la réalité. Et on peut se chercher. On a le droit de se chercher. On a le droit de se rendre compte que finalement sa place, elle serait plutôt là. Et c'est ça la réalité. C'est que la plupart, ils restent à la fac. Et c'est qu'une toute petite frange. Et donc moi, je dénonce cette sélection. Et je dénonce surtout cet enfumage qu'il y a eu, consistant à dire que tous les problèmes venaient de l'ancien système, qui c'était la loterie, etc. Ce qui est complètement faux. Parce qu'il y a eu des tirages au sort, mais sur une toute petite fraction en fin de parcours, bref. Mais surtout, le problème des facs, c'est le manque, effectivement, de place, tout simplement. Et le pire, c'est que là, on attend, on a les chiffres maintenant. On sait qu'il va y avoir 65 000 bacheliers supplémentaires cette année. 65 000. Et que le gouvernement, il a prévu d'ouvrir 19 000 places. Alors, ils vont aller où, les jeunes? Ils n'ouvrent pas de place en BTS, ils n'ouvrent pas de passe. Parce que, en plus, le gouvernement fait la leçon en disant que oui, les lycéens qui passent des bacs pro ou des bacs techno, il ne faut pas qu'ils aillent en fac. Mais est-ce qu'ils ouvrent des places de BTS? Est-ce qu'ils ouvrent des places en IUT? Non.
L'alternative aujourd'hui à cette réforme, ce serait de construire de nouvelles universités?
Il faut construire de nouvelles universités, il faut ouvrir des places en BTS, il faut ouvrir des IUT, oui bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Alors, et vous voyez, c'est ce qu'on disait, non seulement Macron, il continue la politique menée, mais il l'aggrave, parce que effectivement, la situation va être plus grave, plus dramatique encore, dans les universités, mais même dans les hôpitaux. Parce que, si vous voulez, pendant qu'on nous amuse là, avec les images en boucle de la manif du 1er mai, des casseurs, etc., moi j'ai quand même découvert que finalement, le gouvernement allait enlever plus de 1 milliard aux hôpitaux. On n'en discute pas.
Le président du Conseil de l'Ordre des médecins a lancé un cri d'alarme. Notre système de santé est à bout de souffle. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter aujourd'hui.
Ah, bien sûr, il y a de quoi s'inquiéter. Et les personnels hospitaliers sont les premiers à l'expliquer, à le prouver, à le démontrer. Enfin bon, il y a eu la fermeture de maternités, de petits centres hospitaliers. Ça fait déjà des décennies, plus d'une décennie que ça dure. Et là, ça se multiplie. Il manque de lits. Pourquoi les urgences sont-elles saturées? Parce qu'ils passent leur temps à essayer de trouver un lit pour les gens qui arrivent.
C'est alors, quand même si fou. Vous avez vu, les cliniques privées appellent les patients à s'orienter vers les urgences des cliniques privées où le tarif est le même.
Oui, j'ai vu ça, oui. Et puis, c'est comme ça qu'effectivement, ils veulent se faire une clientèle, hein, en les accueillant au moment des urgences et ensuite en continuant, mais cette fois-ci en les faisant payer. Et là encore, ces cliniques privées, dont certaines sont cotées en bourse, hein, parce que c'est ça aussi, on fait du fric sur tout, sur la santé, sur la pharmacie, surtout sur la nourriture, il faut faire du fric, le plus de fric possible. Hein. Et combien l'État donne aux cliniques privées? Et c'est normal, ça? Donc, voilà, c'est le problème des services publics. Dire service public, ça ne suffit pas. Hein. Le problème, c'est effectivement, est-ce que l'argent, il y va au service public? Ou est-ce qu'il sert, au contraire, à arroser? À ça, l'État, il y a un truc qu'il sait très bien faire, c'est construire des super hôpitaux, super clinquants, hein, qui réunissent d'autres hôpitaux. Alors, ils font des partenariats publics-privés avec des Bouygues, les Vinci, etc. Ils s'endettent sur des décennies. Alors, ça fait rentrer de l'argent pour ces bétonneurs, ça fait rentrer de l'argent pour les banques. Hein, et puis après, il n'y en a plus pour acheter un oreiller pour les patients. Il n'y en a plus pour manger correctement à l'hôpital et même pour les soins et pour embaucher les médecins qu'il faut.
En raison du manque de personnel, les personnes âgées sont parfois victimes de maltraitance dans certains EHPAD. Qu'est-ce que ça dit de notre société, la façon dont on traite les personnes âgées?
Bah, ça en dit long, voilà. Ça fait partie des scandales. On se rend bien compte que pendant que on a un président qui déroule le tapis rouge aux plus riches, qui les invite à Versailles, qui leur fait cadeau sur cadeau, bah ça craque de partout. Ça craque dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les facs, dans les tribunaux, dans les prisons aussi, hein. Voilà, c'est-à-dire que parce que le gouvernement, il sait très bien que voilà, son monde, hein, Macron, son monde de riches, ils n'auront pas de problème pour trouver quelqu'un à leur chevet. Ils auront quelqu'un à leur chevet 24 heures sur 24, hein, ils pourront se le payer. Hein. Ils n'iront pas en EHPAD et en structure publique. Hein. Ça, effectivement, bah, c'est pour les milieux populaires. Et les milieux populaires, même cette dignité-là, eh bien, le gouvernement s'en moque. Donc moi, je comprends, y compris la colère qui est exprimée par les retraités aujourd'hui, hein, par les retraités qui ont justement à qui il a fait les poches. Ils ont travaillé toute leur vie, hein, et puis là, on leur dit, il faut faire un effort. Bon.
Nathalie Arthaud, j'aimerais qu'on parle à ce moment de notre émission de la fête annuelle de lutte ouvrière. Ça a lieu le 19, le 20 et le 21 mai à Presles dans le Val d'Oise. C'est durant le week-end de la Pentecôte. C'est le rendez-vous important de votre parti politique.
Oui, c'est notre fête nationale. Donc à la fois, nous multiplions les discussions, mais aussi nous faisons la fête. Voilà, donc nous avons pas mal de spectacles. On invitera donc Soviet Suprême, c'est un petit peu notre la star qui va venir à la fête. Mais il y a de nombreux groupes. On a un village médiéval, on a un parcours dans les arbres, on a un cinéma. Donc voilà, c'est l'occasion en famille. C'est très fraternel, c'est très populaire, de passer un bon week-end, une journée, une belle journée, en découvrant plein de choses.
Comment on fait pour y aller? C'est un peu compliqué.
Non, c'est pas compliqué. D'abord, c'est donc à Presles, dans le Val d'Oise. C'est à la campagne. C'est à la campagne. Il faut bouger un petit peu, hein, mais c'est pas non plus très loin. Alors, il y a un problème sur les trains. Ce n'est pas le problème de la grève, même si c'est un week-end de grève, c'est que tout simplement, ils font des travaux. Donc, il n'y aura pas de train. Mais en revanche, il y a des navettes gratuites de bus qu'on fait partir de Saint-Denis Université.
Sur la ligne 13.
Donc c'est la terminus de la ligne 13. Donc là, c'est très facile. Le trajet, il est gratuit. En 45-50 minutes, on est déposé devant la fête et il n'y a aucun problème.
Ce sont des sympathisants qui viennent, mais ce sont finalement des gens qui ne sont pas des adhérents de Lutte Ouvrière.
Ah non, on a, c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large, voilà, c'est une fête nationale. Tous nos voilà, c'est beaucoup plus large. Là, on a 30 000 personnes qui visitent la fête. Donc, non, tout le monde y trouve sa place et le bienvenu. Encore une fois, voilà, c'est surtout des moments à partager. Nous avons des camarades qui viennent des Antilles, qui viennent de la Réunion, qui viennent aussi de Côte d'Ivoire, qui viennent d'Haïti, parce que c'est aussi une fête où nous invitons les groupes internationaux qui sont en contact, enfin qui sont sur la même politique que nous, donc y compris on a un groupe qui vient des États-Unis, d'Espagne, d'Allemagne, de Belgique, je vais en oublier, de Grande-Bretagne, de Turquie, donc voilà, c'est une fête qui est très ouverte et voilà, tas de choses à découvrir.
Une fête internationale, j'aimerais qu'on parle aussi de la Palestine. Je sais que c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur, Nathalie Arthaud. Tous les vendredis, des milliers de Palestiniens manifestent à Gaza pour le droit au retour des personnes chassées de leurs terres en 48 et en 67. Des dizaines de Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne, des milliers d'autres ont été blessés. Que vous inspire ce mouvement des jeunes Palestiniens de Gaza tous les vendredis ?
Mais d'abord, je comprends cette volonté de dire voilà, bah nous on ne supporte plus ça. Hein, on ne supporte plus ça, on a le droit de vivre dignement, on a le droit de ne pas être enfermé comme on l'est aujourd'hui. Et quand on voit l'état de Gaza, qui a été détruit par, je crois, l'offensive, c'était plomb durci, si mes souvenirs sont bons, que voilà, rien n'est reconstruit, que toute leur vie dépend de l'aide qui peut rentrer, enfin c'est insupportable. Donc qui est effectivement ce mouvement pour dire voilà, bah c'est insupportable, ces revendications là elles sont légitimes, moi évidemment je suis solidaire, voilà, de ces jeunes qui disent bon, mais on va pas vivre comme ça, on va pas accepter ça, et ce qui m'indigne. Alors je sais aussi que fort heureusement du côté d'Israéliens, il y a quand même une petite frange qui n'est pas d'accord avec la politique de Netanyahou et qui dénonce aussi la colonisation, qui dénonce aussi cette politique qui de plus en plus interdit finalement aux Palestiniens même de rêver à un État, heureusement, mais force est de constater que les États comme le gouvernement français ou les États-Unis ne lèveront absolument pas le petit doigt. Donc en effet, je crois que c'est oui, les Palestiniens, les travailleurs palestiniens, j'espère, qui trouveront la solidarité des travailleurs, des autres travailleurs de la région, y compris en Israël, y compris dans la région, pour réussir à faire valoir leurs droits.
Dans quelques jours, Donald Trump pourrait mettre à exécution sa décision de déménager l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. C'est de nature à enflammer toute la région.
Vous savez, en fait, c'est en partie symbolique, cette région, c'est encore un coin de la planète où la colonisation est systématisée, est institutionnalisée et est acceptée par tous les dirigeants. Enfin bon, les droits humains sont bafoués nuit et jour. Ils sont quasiment le gouvernement de Netanyahou est quasiment en train d'installer une ségrégation avec les Arabes israéliens finalement mis de côté. Des raisons d'être révoltés, il y en a vraiment. Là, il n'y a pas besoin de chercher une raison de plus. Moi je sais pas si c'est aussi quand même beaucoup un symbole, encore une fois, voilà, moi ce que j'espère c'est que il y aura ceux qui sont opprimés dans cette région-là, et les Palestiniens trouveront l'oreille et trouveront le soutien des autres opprimés au-delà des frontières. Au-delà des frontières, oui.
Merci Nathalie Arthaud. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Lutte Ouvrière et on rappelle donc cette fête de Lutte Ouvrière.
Donc le 19, 20, 21 mai à Presles, dans le Val d'Oise.
Merci, bonsoir.
Merci.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.